Allez, c'est parti, c'est la 154e émission de Plume et Pinceau, une émission placée sous le signe de la chaleur. C'est Roger, il nous a ramené ça. Ça fait un moment qu'on n'a pas enregistré parce que Roger était parti dans le Berry mystérieux.
Oui, il faisait très chaud dans le Berry.
Il nous a ramené le soleil.
Ouais.
Donc c'est une émission très sérieuse. On est même à l'eau, c'est pour tout vous dire.
Ouais, alors là, on est à l'eau.
Même pas de, je sais pas, même pas de grenadine.
Contre, on est à l'eau contre un forcé.
Oui, j'ai pas eu le temps. Mais à coup de pas. Mais c'est bien pour nous. C'est mieux pour notre santé.
C'est clair, on va pas vous mentir, c'est clair.
Alors, nous sommes réunis, et il y a monsieur Roger, et il y a monsieur Fifrelin.
Tout à fait, bonjour.
Qui est cette semaine le représentant de la boutique dont nous tairons le nom, mais dont
le boss, le boss.
Et en plus, le boss, le référent, El Capo del Tutti.
Pour rappeler aux auditrices, auditeurs qui auraient pris le train en route, effectivement, nous nous sommes associés avec la maison dont nous tairons le nom, afin d'avoir, de bénéficier de leur lumière, vous voyez.
D'avoir un côté plus Télérama.
Voilà, peut-être. Alors moi, je suis fâché. J'étais obligé de me fâcher avec, comment il s'appelle, pas monsieur Ratapoil,
Carpetto,
parce que déjà, Matadora, elle nous l'a fait Télérama à chaque fois. Des carnets remplis de 5 pages d'écriture serrée sans faute. Ça nous humilie. Mais bon, on n'a jamais été fiers, hein, monsieur Plume et moi.
Nous, on a un cahier, on marque ce qu'on fait dedans, voilà. Et puis c'est à peu près tout.
Et puis, tout est là, dans la tête. Nous, de l'impro total.
Non, mais nous, on a trop de BD en tête pour pouvoir se permettre ce genre de choses.
Bref, ce soir, c'est vous qui vous y collez avec 3 albums de votre sélection, des choses dont moi, il y en a 1, 2 dont j'avais entendu parler et un que vous allez nous faire totalement découvrir, mais que Erwan, monsieur Plume, connaissait déjà.
J'en ai entendu parler aussi de l'épouvantail, effectivement. Je suis très intrigué, je suis très curieux de voir ce que vous allez nous en dire. Tout ça avec de la musique et puis un peu d'actualité, mais surtout de la musique. Allez, salut les copains! Variation sur le salut à toi, quoi. Sympathique. Mais je trouve que c'est un très bon morceau, monsieur Fifrelin, pour lancer cette émission sous le signe de la bonne compagnie.
Et de la convivialité.
Alors, tonton Roger, normalement, a toujours quelque chose à dire.
J'ai toujours quelque chose à dire. Et je profite justement de la venue de monsieur Fifrelin, parce que, vous êtes un peu le boss.
Quiz, un interrogatoire.
Non, c'est pas
un
ça.
Un challenge.
Avez-vous, monsieur Fifrelin, entendu parler du projet de taxe sur le livre d'occasion?
Très vaguement, mais j'ai pas prêté l'oreille comme j'étais pas concerné.
Ah, ah. Alors c'est assez curieux parce que pour reprendre la citation de Monsieur Michel-Édouard Leclerc, au pays des Lumières, on n'a pas que des idées brillantes. Apparemment, lui, il est opposé fondamentalement à la taxation des livres d'occasion. Alors moi, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, taxation des livres d'occasion. Est-ce que ça veut dire que même le vendeur de BD ou de bouquins lambda dans les braderies va être obligé de déclarer une taxe? Est-ce que quand vous irez chez les frères Cohen, qui n'existent plus, mais espèce de grosse librairie d'occasion, il y aura des taxes, etc. Eh ben apparemment non. Non, apparemment, d'après le projet qui a été vaguement lancé par Macron et repris par Dati, eh bien en fait, ne serait taxé de cette potentielle taxe, comment dirais-je, alors je vais vous trouver...
Que les magasins en dur
les plateformes de revente en ligne, Amazon, la Bourse aux Livres, etc. Et physiques, comme la librairie Gibert, Book Off, etc.
Ouais. Oh, ils ont qu'à bien payer leurs auteurs et tout ça. Il n'y aura pas besoin d'essayer de trouver des thunes pour compenser, quoi.
Ah, mais les acteurs de l'économie sociale et solidaire comme Emmaüs s'en seraient exemptés. Idem pour les brocanteurs et les petits bouquinistes comme ceux qui longent les quais de la Seine à Paris. Et l'argent issu de cette nouvelle taxe irait à un organisme de gestion collective au bénéfice du soutien à la création. Alors, est-ce que je sais pas,
ça, ça sent l'usine à gaz.
Ils vont payer des gros porcs pour, aller à des cocktails pour ne rien foutre. Alors, un fonds destiné à la retraite des autrices et auteurs pourrait aussi récolter une partie de cette somme. Mais les modalités restent encore très floues selon l'état actuel de la proposition de loi qui doit être examinée au Sénat.
Ouais, en gros, c'est l'acheteur lambda qui va payer les retraites, quoi. Mmh. Au lieu que ça soit les patrons et les cotisations sociales, etc., etc., quoi.
En fait, ce qui est curieux avec cette loi, c'est que Michel-Édouard Leclerc dit quelque chose, donc, logiquement, moi, j'ai envie de dire que c'est probablement une connerie. Mais d'un autre côté, il s'oppose à Macron et Dati, qui disent autre chose. Donc là, je sais pas trop à quoi
venir. Vous jugez à la personne, ouais. Mon bon fifrelin.
Et ouais. Justement,
vous êtes mauvais, vous êtes déjà trop fréquenté.
Et ben, ça me fait plaisir, ce qu'il dit. Ça me fait plaisir. Entre la peste et le choléra, il choisit la peste. Et justement, la peste a déclaré 84% des lecteurs, selon une enquête Leclerc-IFOP, trouvent que, l'achat de l'offre d'occasion est de moyen de contourner le prix des livres neufs de plus en plus élevé. Et d'après lui, le problème est la rémunération des autrices et auteurs par leur éditeur.
Qu'est-ce que je disais ?
Qui est souvent faible, variable et aléatoire. Les modalités de contrat proposées aux autrices et auteurs sont donc le principal problème, d'après Michel-Édouard.
Je suis tout à fait d'accord avec lui.
Je suis assez d'accord avec ça aussi, ouais.
Exactement.
Mais je vois pas trop comment taxer les
Amazon.
Je vois pas comment ils vont, parce que là c'est des informations conditionnelles. Est-ce qu'ils vont vraiment reverser cet argent ou alors ça va
est-ce
être
est-ce que cette taxe va se faire déjà?
Oui, parce que c'est pour ça que la mère Dati
la mère Dati comment vous y allez? Non mais la Dati là.
Vous avez regardé Envoyé spécial? Et comment
ah oui,
dit
ah, quelle histoire.
Ouais, quelle histoire. La collaboration, tout ça. Et comment dirais-je,
quelle histoire.
Elle a, pour pas se mouiller trop, et vous savez que effectivement, elle a d'autres chats à fouetter, la mère Dati. Et
l'été approche, faut changer la garde-robe.
Ouais. Changer de bijoux, hein, pas sortir avec n'importe quel bijou. Et qu'est-ce que je voulais dire, elle a envoyé le bébé au Conseil d'État. Déjà, le Conseil d'État va dire si c'est possible ou pas. Donc, il est possible que si le Conseil d'État déclare que tout ça serait pas bien conforme au code des impôts.
C'est réglé.
On va le savoir.
Non, mais c'est...
Eh ben, il n'y aura plus rien.
Ça se fera pas.
Donc voilà. Et vous, ouais, voilà. C'est vrai que c'est tout à trac que je vous pose cette question-là. Vous n'êtes pas forcé d'avoir une opinion précise là-dessus, mais voilà.
Et... Sinon, moi, je vous propose d'investir, tiens.
Allez-y.
Alors, plus intelligemment. Soutenez Charlotte Mensuel, saison 2. Ils ont lancé un appel à contribution. Mmh. Pour construire, continuer dans cette expédition, cette expérience, parce qu'ils n'ont pas que des amis. Hein. Non, on leur a refusé certains petits reconnaissances des droits, par exemple, de postaux de la poste, des droits postaux de la presse. Hein, on considère que c'est pas un journal de presse, alors que mais ça se veut un mensuel de bande dessinée qui nous offre de l'original en plus, en mixant anciens et récents. Et là, pareil, il lance une contribution parce que c'est un peu compliqué. Il faut dire qu'il y a des noms qui passent très bien, hein, puis il y a des noms qui font polémique. Hein. Bastien Vivès fait partie de cette expérience.
Et puis il y a pas que lui. Hein.
Ouais, il y a pas que lui. Mais tu retrouves Crépax, tu retrouves Moebius, tu retrouves plein de gens dedans. Hein. Bastien Vivès n'est qu'un parmi, mais on sait que c'est dur.
Ouais, c'est dur. Mais pour les mensuels de bande dessinée en règle générale, c'est compliqué. Ouais, faut être très bien établi. Comme
ça veut reprendre un peu les expériences pilotes, Charlie, etc. Ouais. Et essayer, ce qui est très chouette. Hein. Mais apparemment, c'est quand même dur, d'où un appel à contribution. Alors, par contre, je trouve que c'est un crowdfunding, c'est ça qu'on dit ça ?
Crowdfunding.
Ouais, qui est vachement sympa, puisque en fait, ils vont te proposer. Tu sais, t'as toujours des goodies, etc. Ouais. Puis plus tu vas franchir des paliers, plus tu vas avoir des goodies sympas, quoi. Là, ils te proposent quand même, pendant 30 jours, une œuvre originale, chaque jour.
Paf.
Ouais. Ils te proposent tout un tas de trucs comme ça.
Ça peut être valable.
Ouais, je trouve que le pari est ambitieux, mais est sympathique.
Après, Charlotte, ils ont une mauvaise image parce qu'il y a Bastien Vivès, mais il n'y a pas que lui, il y a d'autres auteurs comme ça qui sentent un peu le soufre. Il y a un côté...
Crépax.
Ouais, mais en fait, ils ont, disons, lancé ce magazine-là à l'époque de MeToo.
Il y a Welbeck
avec son
aussi
contenu.
Dedans.
Ouais, c'est ça. Il y a vraiment trop de noms qui sont.
Il y a Willem aussi. Enfin, je veux dire, ils piochent.
Willem n'a jamais été inquiété pour quoi que ce soit. C'est plus Bastien Vivès, comment dirais-je.
Oui,
qui
puis
est présent.
Il y a Welbeck et Clivian aussi.
Ah, il y a Welbeck aussi.
Il y a Pichard. Il y a Georges Pichard aussi. Il y a des matériaux de Georges Pichard. Il réédite plein d'originaux aussi de grands maîtres, quoi. C'est ça qui est chouette. C'est la BD
Mais j'avais acheté le premier numéro et après, c'est vrai que ça m'est sorti de la tête.
Ouais, pourtant c'est le genre de magazine que.
Ouais, mais c'est aussi parce qu'il reprenait aussi pas mal de vieux matériel aussi. Par exemple,
mais oui,
Pichard,
mais c'est que des inédits. Normalement, c'est des inédits.
Ouais,
c'est leur.
Ça m'est sorti un petit peu de la tête. C'est bien dommage.
En tout cas, voilà. Si vous voulez vous lancer aussi dans l'opération de soutien, c'est en ce moment. On vous mettra le lien sur le blog. Et moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça très bien. Interlude musical?
Yes, sir.
Et puis peut-être que tonton Roger aura encore un truc à dire.
Ouais, j'aurai encore un truc à dire, histoire de vous plomber la
quelqu'un
journée.
Quelqu'un est mort?
Non, mais non, mais non.
Bon, programmation à Roger. Un classique. Small Jean genius, knock off to the city, strung out on lasers and slashback blazers and ate all your razors while pulling the waders, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on. Jean Genie lives on his back. Jean Genie loves chimney stacks. Like a reptile, she loved him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Jack Bowie ou David Dutronc, je sais plus.
En
mais
fait,
voilà, Gin Ginny.
Et vous savez quoi, le morceau Dutronc, et je le sais de source sûre, est antérieur à la
Alors,
version
je crois
Bowie.
Aussi, je crois aussi.
Ah, j'en suis pratiquement
je
sûr.
Crois
ouais.
Aussi.
Ouais, c'est assez curieux. Et la question,
ça s'est vu,
que,
ça s'est vu, David.
Est-ce que le père David aurait laissé traîner ses oreilles en France? Allez savoir.
Allez savoir. Alors, il paraît que vous avez le dossier du siècle, un scoop.
Oh, c'est malheureux.
Une news de, comment il a dit ça? De la bombe atomique.
Non, non, non. Je vous ai dit, ça, c'est dans l'air du temps. Alors, il y a quand même eu un épisode rassurant ce week-end aux États-Unis, parce que mon article parle de quelque chose qui est en liaison avec la politique de Trump, justement. Et c'est son espèce d'anniversaire où il était tout boudou. Il était tout boudeur parce qu'il y a personne qui est venu voir.
C'est sa parade.
Ouais, sa putain de parade. Vous savez, il y avait des espèces de barrières, contre-barrières pour filtrer les gens. En fait, il y avait absolument pas besoin parce que
les Américains n'ont pas l'habitude de ce genre de choses, en fait.
Bah ouais, ils n'ont pas l'air de trop kiffer ce genre de conneries. Par contre, ils étaient des millions à travers tout le pays à dire qu'ils voulaient pas lui souhaiter un bon anniversaire. Mais ça ne l'empêche pas de sévir. La preuve en est avec les propos anti-Trump d'Ark Spielman ont été censurés par la chaîne PBS qui diffusait un documentaire sur une biographie de Ark Spielman. Ark Spielman, naturellement, l'auteur
Mouse.
Bien connu de Mouse en France, mais qui aux États-Unis est aussi très connu. Il a quand même un prix Pulitzer pour un auteur de BD. C'est rare, quand même.
Ouais.
Faut suffire. On peut le souligner. Et justement, il passait dans une séquence de sur cette chaîne PBS.
Et PBS.
PBS. En fait, on dit pas PBS, on dit Trouillard et bien fait pour leur gueule. En clair, ils avaient déjà eu pas mal de menaces de l'administration Trump qui menaçait de leur retirer leur crédit parce que leurs propos étaient un petit peu trop irrévérencieux. Donc, ils se sont dit, quand Art Spielman a présenté lors d'une séance, une séquence, dans ce reportage de 90 secondes, un dessin anti-Trump qu'il avait réalisé, eh bien, ça a été purement et simplement chuinté. Et ça a mis en fureur et les producteurs du documentaire et Art Spielman. Et l'ironie de l'histoire, c'est que, alors que Trump n'a pas pu voir ce passage tendancieux, puisqu'ils l'avaient eux-mêmes supprimé, la chaîne l'avait, c'était auto-censuré. Le 1er mai, Trump décidait qu'il n'aurait plus aucune subvention publique, et puis c'est tout. Et
voilà. Tu fais du bien, Martin.
Voilà, tu fais dans ton froc, et tu ramasses ta merde tout seul, et puis c'est tout.
Mais il y avait déjà eu des histoires avec Mouse qui a été purement et simplement supprimé de pas mal de bibliothèques dans certains États, des bibliothèques publiques et des écoles. Parce que dans Mouse, qui est quand même un truc qui est consacré à la Shoah, extrêmement bien fait, là, et le Pulitzer était mérité, je sais pas, mais en tout cas...
C'est une référence, ça, c'est une référence graphique
et historique. Il a été enlevé pour pornographie, parce que à un moment, on voit une nana qui est dans un baignoire seins nus. Donc bon,
je trouve que
l'argument est spécieux quand même.
C'est des personnages animaliers en plus.
Puis c'est vraiment pas fait pour exciter les
gens. Il y a une guerre des livres aux États-Unis.
Ah bah oui, on est dans une véritable autocratie. Et la morale de cette histoire, c'est que ça sert à rien de se coucher devant le tyran, parce que si le tyran a envie de vous enculer, il vous enculera à sec et puis c'est tout.
Mais il est tout énervé, vous trouvez pas énervé?
Non, mais c'est vrai que c'est chiant. C'est
les nerfs.
Mais j'étais bien content de le voir tout grignou, tout mauvais, lors de sa parade pourrie que personne n'a regardé. Et le même jour, il y en avait une au Mexique et il y avait une super ambiance, plein de drapeaux, plein de monde, mais elle faisait défiler des soldats avec des petits chiens de combat. Vous avez pas vu ça?
Non.
Ouais, je vous assure, le même jour, il y avait la présidente mexicaine qui était hilar et on voyait des nanas avec un petit chien de combat. C'est-à-dire, ils sont encore petits, ils vont les élever pour ça vous saute à la gorge, ça un GI, tu vois. Et ils défilaient avec leur petit chien coincé sur leur poitrine en lieu et place d'une arme, en fait. C'était assez rigolo.
Ouais. Interlude musicale ?
Yes !
C'est peut-être la solution. Buvons un coup tous les jours. Les Rum Kicks, un petit groupe de Séoul, c'est un trio féminin. Il y en a deux, elles ont des spikes, mais on dirait des nanas d'exploited. Tu sais, le groupe de punk.
Ouais, fait peur quand vous avez commencé à dire elles ont des, puis vous voyez, citer. Ah, j'ai eu peur, vous avez eu peur aussi.
Je m'y mets, mais comme il me dit.
Ce fifre-là aussi, c'est affolé. Calmez-vous.
Elle nous propose de boire un coup tous les jours. Moi, j'adore, c'est de la philosophie à ce niveau-là.
Et vous avez 06?
Ah, ben, on en parle après, Roger. Alors. Il a sorti le cahier pendant le morceau.
Bien.
A-t-il réussi à se concentrer? Ça, je sais pas.
J'avais chipé son livre de téléréférence sur notre grand cahier. Hein. Ça va peut-être un peu perturbé. Allez, je range mes affaires pour lui laisser.
Alors,
la
monsieur
place.
Fifrelin, qu'avez-vous à nous conseiller cette semaine?
Alors, cette semaine, je vais vous conseiller Épouvantail, qui est sorti il y a quelques temps déjà, il y a quelques semaines. De Pélaez et Sénégas aux éditions d'Argo, et qui nous raconte l'histoire de Lily, une petite fille qui vit à la campagne avec son père et sa belle-mère, sa mère biologique étant morte quelques temps auparavant dans des circonstances mystérieuses, Ophélie donc, c'était son nom. Et qui s'ennuie un petit peu et qui essaye de devenir copine avec un épouvantail. Et sauf que l'épouvantail, il est désagréable comme c'est pas permis.
Il parle. Il parle ou elle rêve qu'il parle?
Non, il parle vraiment à Lily. Du moins, en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Mais il est ordurier, il est atroce avec elle. Et sauf qu'elle s'en laisse pas compter. Au bout d'un moment, elle en a ras-le-bol parce qu'elle a essayé plusieurs fois de faire ami-ami avec lui et il se montre toujours aussi pénible. Donc elle finit par lui balancer des graines dessus, donc il va se faire picorer par des corbeaux. Ça n'arrange pas son caractère, donc elle le déguise, elle le transforme, elle le maquille. Il est toujours aussi désagréable. Elle décide un jour de tenter d'y foutre le feu. Là par contre, il commence à paniquer et il se dit peut-être que je vais changer un peu de comportement. Et du coup, leur relation
se transforme
un petit peu. Et dans le même temps, on suit une enquête en fait qui est menée dans le coin, dans le voisinage, une enquête sur un accident de voiture qui a priori est pas forcément quelque chose d'inhabituel, mais il y a un gendarme qui trouve qu'il y a des coïncidences un peu perturbantes. Pour lui, il y a quelque chose qui va pas avec cet accident de voiture et il décide de mener l'enquête. Et l'épouvantail. Et Lily un jour discute et l'épouvantail se plaint tout le temps d'avoir des maux de ventre, de pas être bien, de ce qui pourrait selon lui expliquer son caractère. Et Lily, comme elle s'ennuie, elle décide de l'emmener dans sa chambre. Et le gendarme traîne autour de la ferme parce qu'il pense qu'il y a des éléments, la ferme des parents, il pense qu'il pourrait y avoir des éléments qui pourraient aider son enquête. Et
c'est l'accident qui a coûté la vie à la mère de la gamine.
Non, c'est pas. Alors justement, c'est là où c'est pas mal. Il y a en fait plein d'histoires qui s'imbriquent les unes dans les autres et les auteurs remplissent tous les blancs petit à petit. Et c'est assez mystérieux comme ça. C'est pour ça que j'ai eu besoin de me la remettre en tête parce que je me souvenais de l'histoire globalement, mais je me souvenais plus.
C'est du Hitchcock ton truc.
Et ça fait un peu penser à un montage à la Pulp Fiction. Vous voyez, avec des trucs qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et à la fin, ça donne quelque chose de très consistant, quelque chose de très cohérent, très carré. Et la seule intervention fantastique étant que
Vous voulez dire qu'il y a un vrai scénario?
Il y a un vrai scénario. Et un scénario bien ficelé qui arrive à mêler justement. Ouais. Le côté des personnages qu'on apprécie parce que la gamine est plutôt attachante, l'épouvantail qu'au début on trouve vraiment détestable mais on finit par le trouver, enfin quand il s'acclimate à la gamine en gros il devient fréquentable lui aussi. Les parents, le père et la belle-mère qui sont un peu périphériques dans l'histoire mais qui sont quand même bien campés, et en filigrane on va avoir l'histoire d'Ophélie, justement la mère de la gamine, dont la mort est, semble-t-il, aussi mystérieuse. Alors visiblement c'était une femme qui avait hérité de la ferme, donc elle est venue s'y installer avec le père de la gamine et elle voulait pas la vendre et elle fabriquait des petits objets, elle était un peu sorcière,
il y a du vaudou là-dessous.
Et, exactement, on va apprendre que l'épouvantail il sort pas de nulle part. Enfin, il y a plein de choses qui sont hyper bien montées comme ça.
Je vois mon Roger qui commence à pâlir. Non, il y a du vaudou.
Savez, j'imaginais pire quand il me dit qu'elle emmène l'épouvantail dans sa chambre.
Une histoire avec un épouvantail, Roger.
Vous êtes un détraqué.
Non, je pensais pas je pensais à comme il dit qu'il a mal au ventre, qu'est-ce qu'il y a dans l'épouvantail?
Exactement. Qu'est-ce qu'il y a dans l'épouvantail? Alors, je vais pas tout spoiler parce que
ça serait dommage.
Et le dessin, donc Pélez, il a fait des tonnes de trucs. Ils étaient venus en dédicace, et c'est tous les deux des gars de...
On est dans du noir et blanc, hein.
On est dans du noir et blanc. Sénégas, il avait fait Anouki à la gouttière, des albums muets pour les enfants sur un petit indien bien avant l'arrivée des Européens. Donc c'était très chouette. Et là, il a un dessin, je trouve, tout à fait splendide, assez minutieux, avec plein de petits traits.
T'as l'impression qu'il n'y a pas un petit trait, ouais, comme ça.
Il y a plein de techniques mélangées.
Presque au stylo bille.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, il dessine au stylo bille, à l'encre, au fusain. Enfin, mélange plein. Et il fait de l'aquarelle. Il mélange plein de techniques. Ils étaient venus en dédicace. Ils faisaient des dédicaces superbes.
Donc, c'est marrant parce que il y a un décalage énorme entre le style du dessin, qui serait plutôt, ça va, c'est mignon, je veux dire, bon, c'est en noir et blanc. Et le propos fantastique.
Ouais, c'est mignon, c'est mignon.
Si, ça va. Enfin, bon, il y a des personnages qui sont plus sombres, mais la petite gosse.
Gamine, elle est marrante avec l'épouvantail. C'est marrant parce qu'il y a un changement de ton à partir du moment où l'épouvantail devient plus sympathique. Ça change un peu de ton. Mais c'est vraiment ce côté, moi, je déteste le polar fantastique habituellement. Mais là, c'est bien parce que le polar reste dans son couloir, le fantastique reste dans son couloir. Et en même temps, les deux histoires fonctionnent en parallèle et ça fonctionne super bien.
C'est des albums, et notamment celui-là, le peu que j'ai vu, qui fonctionne aussi par vraiment des cases très carrées ou rectangulaires, c'est très géométrique.
Ouais.
Et ça contribue en fait à presque des fois à des côtés cinématographiques.
Ouais, puis
mais un vieux cinéma des années 30 quoi.
Ouais, moi, vu d'ici
ça a un côté ouais.
Vous le faire circuler si vous voulez.
Ah, tout à fait. Alors rappelez-nous, ça s'appelle
Épouvantail de Pélez et Sénégas.
Et c'est aux éditions d'Argo.
Et bien sûr, c'est un one-shot.
Mais beaucoup de gens, effectivement, ça bruise dans le Landerneau autour de cet album.
Oui, mais c'est une très bonne BD, moi je la recommande, chaudement.
Recommandé par Monsieur Fifrelin. Alors, mon bon Roger.
Eh ben, on va faire dans...
J'ai vu que vous avez des fiches maintenant.
Ah, bah oui, je prends des fiches un peu partout. Il y a toujours les excellentes fiches, d'Emmanuel Klein. Oui, parfaitement.
Mais non, mais un peu de magie, quoi, du rêve.
Vous savez, il faut rendre à César ce qui appartient à César, d'autant qu'en plus, elle nous écoute. Donc, si je la ramène en recitant ce qu'elle dit sans la citer, je suis mort. Et donc, voilà. Et elle aurait bien raison. Et j'ai piqué un article dans Zoo. Prêt à tuer terre et mer, parce que c'est un ouvrage dont vous connaissez un des auteurs, en tout cas Monsieur Jean-Denis Pendant, puisqu'on l'a encore rencontré en octobre de cette année à Quai des Bulles, pour L'œil du marabout, vous vous rappelez, et pareil aux éditions Daniel Maguen, si je ne dis pas de bêtises, et là par contre c'est en compagnie de Laurent Galandon qu'il signe Les poissons, eux, ne pleurent pas. Et là, j'ai recompris à nouveau pourquoi, effectivement, ce genre de littérature ne me convenait pas, parce que si les poissons, eux, ne pleurent pas, je dois vous avouer que tout vieux grignou que je suis, heureusement j'étais seul, j'avais la gorge nouée et, on va dire, les yeux largement embués à travers l'odyssée d'un gamin dont le papa est patron de pêche sur une espèce de super barque. On est en Gambie. La Gambie, c'est un tout petit pays qui est coincé entre deux morceaux ex-colonies françaises et qui est là juste parce que les Anglais ont gardé, ils ont jamais voulu échanger avec nous, rien que pour nous faire chier. Donc c'est un pays fleuve, en fait. Il y a la Gambie de chaque côté, c'est comme un couloir. Et le long de leur petite façade maritime, ils ont des pêcheurs. Et auparavant, dans le temps, avant l'arrivée de la colonisation, etc., ils avaient des zones de poissons qui nourrissaient leur population assez pacifique, musulmane, cool, peinard. Ils avaient à bouffer, rien à faire chier avec personne. Sauf que le ton a changé, il y a eu la colonisation, et aujourd'hui, pire, le capitalisme effréné, qui est cette fois-ci, personnalisé par les Chinois. Alors j'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien. Voilà, il va rire. On m'accuse de ne pas aimer les Chinois. N'empêche, c'est une putain d'usine chinoise qu'il y a au bord dans le village, qui s'est installé grâce à la corruption locale et qui a chassé les gens du coin, voyez. Et ils récupèrent le poisson pêché par les pêcheurs pour fabriquer de la farine de poisson qui sert à nourrir nos chiens, à nourrir nos chats et nos poissons d'élevage aussi, de compagnie. Donc on a un pillage écologique, et on a aussi un pillage économique dans la mesure où l'usine s'étendant, eh bien les paysans sont spoilés. On voit comment la maman, la femme du pêcheur se retrouve spoilée de son jardin communautaire qu'elle avait avec les autres femmes parce que l'usine cherche à s'étendre. Et enfin, cerise sur le gâteau, c'est une pollution chimique parce que tous les effluents pourris de l'usine sont balancés à travers un long tuyau qui part dans l'eau et qui va directement dans la mer. Et que la société chinoise incite les petits pêcheurs à utiliser des filets interdits, etc. Tant pis s'ils vont prendre les risques, s'ils peuvent se faire gober, etc. Bref, la situation est cataclysmique. Et à travers le destin d'un petit gars, le fils de ce pêcheur, là, eh bien, ce petit gars, il est confronté à la misère vécue par ses parents. Il fait la rencontre, c'est un excellent élève, lui il veut être journaliste sportif, il aime bien le foot, alors il filme ses potes avec son téléphone portable, et pouf, et il veut devenir journaliste sportif, il passe son temps à la bibliothèque. À la bibliothèque, il rencontre une petite nana qui bosse, pour une association locale de lutte contre la pollution et l'exploitation des mers. Et de cette amitié, là, même un peu plus qu'amitié, eh bien, avec cette amitié-là, la vie également du gamin va être complètement bouleversée lorsque son père va disparaître. Un jour, le père va prendre le bateau et pouf, il disparaît. On retrouve le bateau, mais il n'y a pas le père. On pense qu'il s'est suicidé. Et c'est un peu la misère, parce que le fait qu'il se soit suicidé, je vous dis, tout à l'heure, c'est pour ça que je vous ai dit, on était dans une communauté musulmane, certes pas intégriste, mais chez laquelle il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas, même que dans la religion chrétienne, c'était pareil, le suicide est particulièrement mal vu. En fait, assailli par les dettes, etc., ne restait que la disparition pour le père de ce gamin-là. Donc c'est bouleversant. Et c'est mis en image par le talent de monsieur Jean-Denis Pandanx, qui désormais passe énormément de temps également dans l'aquarelle. C'est un aquarelliste de plus en plus renommé. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il est aux éditions Daniel Maguen, parce que bien souvent, on a le droit à des planches en parole, magnifiques, avec le dessin et les couleurs magnifiées de monsieur Pandanx. Et c'est pas la première fois que monsieur Pandanx, L'œil du marabout parlait du Soudan. Là, on était au Soudan avec l'œil du marabout. Là, on est en Gambie. L'Afrique, c'est vraiment le continent de prédilection de monsieur Pandanx. Et quant à Laurent Galandon, je ne connaissais pas, mais grâce à une fiche qu'on nous a fait la gentillesse de nous offrir, eh bien, on nous dit que monsieur Laurent Galandon a toujours eu un propos, engagé. Voilà, un propos qui ne plairait pas forcément à monsieur, Trump, puisqu'il a écrit quand même un ouvrage qui s'appelle « L'IP des héros ordinaires « Fake Story » avec Jean-Denis Pandanx déjà, ou plus récemment « Le dernier costume n'a pas de poche », dessin de Paolo Castaldi chez Futuropolis, ça vous dit quelque chose?
Ouais, c'était un polar.
C'était un polar, vous l'aviez lu
Je crois que c'était un... Non, je ne l'avais pas lu. Je ne suis pas sûr que c'était un polar. Pas du tout, je crois que c'était un truc...
social.
Sur pareil qui se passe.
Ouais, c'est un chieur, quoi.
Un wokiste, probablement.
Un wokiste, monsieur Galandon, sans doute. En tout cas, c'est toujours pareil, magnifique ouvrage avec un espèce de petit livret.
Dossier sur la Gambie, je suis sûr.
Ouais,
chouette.
C'est magnifique.
Cohérent avec ce que fait monsieur effectivement Pandanx depuis
quelques
temps.
Plus en plus, quoi. Il passe son temps en Afrique.
Très bien.
Il nous ramène un travail magnifique.
Paru chez Daniel Maguen.
Voilà. Et une histoire magnifique.
Et ça s'appelle?
Ça s'appelle Les poissons, eux ne pleurent pas, de Laurent Galandon et Jean-Denis Pandanx, à la différence de vous, chères lectrices et lecteurs, si vous avez du cœur.
Yes. Interlude musical. Crazy in love.
Got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Oh,
so deep in your eyes. I touch you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go.
I call your name 2-3 times in a row.
Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling when my pride is going away. Yeah, cause I know what I understand. Just how we love can do what we want to stand.
You got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. You got me looking so crazy right now. Your touch has got me looking so crazy right now. Got me hoping you face me right now. Your kiss has got me hoping you save me right now. Looking so crazy in love. You got me looking so crazy in love.
Oh, 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 oh.
Talk to my friend so quietly. Look at what you did to me. Walking shoes don't even need a brand new hat.
There ain't nobody else to impress.
It's the way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart keeps when I'm with you. Yeah, but I still don't understand. Just how love can do what no one else can.
You got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. You got me looking so crazy right now. Your touch has got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss has got me hoping you save me right now. Looking so crazy in love. Got me looking so crazy in love.
I don't do this, I've been playing myself. Baby, I don't care.
Because your love got the best of me. Baby, you're making a fool of me. You got me sprung out of kerosene. Cause when you got me, you got that so crazy.
You got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. You got me looking so crazy right now. Your touch has got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss has got me hoping you save me right now.
You're looking so crazy in love. Got me looking so crazy in love.
You got me crazy, you got me crazy. Let me go, you got me so crazy. You got me crazy, you got me crazy. Let me go, you got me so crazy. You got me crazy, you got me crazy. Let me go, you got me so crazy.
Oh, 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 oh.
À la suce renouvelée, Beyoncé, ça, on peut pas nier.
N'est-ce pas?
Morceau de la programmation, monsieur Fifrelin. Je reste en fait dans l'esprit qui anime cette émission depuis le début.
Très gay.
Les héros du peuple sont immortels, mon bon Roger. Et polar, moi aussi. Vraiment, la couverture, le choix des couleurs, ces aplats noirs et ce fond jaune, ça nous met dans la série noire. Ça joue avec les codes. Parce que finalement, c'est un polar que nous propose Dargo dans Les héros du peuple sont immortels. Parce que c'est l'histoire d'une cavale. Alors, c'est celui qui fait la cavale qui est un peu particulier. C'est la cavale de Gilbertin. Gilbertin, avant d'être un braqueur en fuite, il a été aussi un rocker. En fait, dans un groupe qui s'appelle Caméra Silence. Et ce qui fait que ce personnage, bah justement, il est devenu un peu héroïque quand même, parce que c'est l'incarnation vraiment toute une époque. Je me suis demandé d'ailleurs si c'était pas un album qui était finalement un peu générationnel. Moi qui me parlais, je pense qu'à Roger, par exemple, ça vous parlera beaucoup.
Oui,
les années 80, Caméra Silence.
Milieu des années 80.
Ouais, c'est ça. Ouais, ça vous parlera. Moi, ça me parlait encore. Est-ce que un lecteur de moins de 20 ans va aussi être passionné par le sujet, je sais pas. Surtout qu'en plus, il y a une image de Bertrand Cantat à un moment.
Ouais, c'est vrai, mais ça s'adresse. Enfin, c'est vrai que c'est pas le public qui est visé a priori.
Ouais.
En tout cas, c'est pas le public qui l'achète.
Ouais, c'est clair. En fait, parce que c'est l'histoire de cette cavale. Donc, Gilbertin, comment on pourrait dire. En fait, c'est inspiré de sa biographie. C'est pas du tout hagiographique. C'est pas dithyrambique. On nous impose pas par exemple l'enfance, tu vois. Là, on va directement quand même dans les années 80. C'est un ado des années 80, alors branché sur le punk rock, branché sur les squats, branché sur la dope, beaucoup.
Du sud-ouest, il était du sud-ouest, lui.
Bordeaux, ouais. Caméra Silence s'est fait remarquer à Bordeaux. C'était une espèce d'insoumis comme on pouvait en avoir dans les années 80, quoi. Un type en marge, libre. Pas liberté, on peut pas dire que c'était des hyper politisés. Ils vont jamais se la jouer politisée. D'ailleurs, c'est pas des trucs à la Messrine qui se dit en guerre contre l'État. Pas du tout. C'est juste des gars qui sont, bah ouais, qui sont, c'est des junkies, qui respectent pas trop l'ordre, et qui donc ont tenté de percer dans le rock. Ça, ils ont eu plutôt une carrière sympathique. En tout cas, c'était des purs. C'est l'image qu'ils ont gardée, leurs albums quand même du punk rock tout à fait noble, venu de Bordeaux avec Noir Désir d'ailleurs qu'on croise donc comme je l'évoque dans cet album. Et puis après il y a besoin de thunes tout ça et il va y avoir un coup assez fabuleux, assez ouais, propre
c'est,
en plus.
C'est plutôt
pas un truc de tâcheron, vraiment un truc pensé avec des dédicaments, des déguisements etc. Hein, un dépôt de la Brinks. Et après c'est l'histoire d'une cavale dans la péninsule ibérique quoi. C'est vraiment un très bon polar en fait.
Ouais, tu pourrais oublier le côté d'amour qui est assez touchante en plus.
Très belle ouais. Ouais, il y a une sincérité dans la relation parce que quand tu croises les événements parce que donc ce Gilbertin il est en cavale et puis en plus sa gueule est un peu connue quoi. La scène d'ouverture par exemple, il y a un type qui croit le reconnaître, vous faisiez pas du rock dans les années 80, c'était un français, tu vois, avec un petit accent justement du sud-ouest qui lui dit ça, que le Gilbertin, il est à Lisbonne et il essaye de disparaître quoi. Ouais. Il tient un magasin de disques, il essaye de se faire oublier quoi parce qu'il est recherché. Tu vois, c'est un bandit en cavale mais connu par son passé de rock, c'est assez troublant. Et puis ce qui est chouette, c'est que bah tu retrouves plein de morceaux, enfin d'allusions à des tas de groupes de l'époque. T'as toute une ambiance de l'époque, ouais. Des squats et tout ça, de la dope, faut pas se le cacher. Le sida, c'est vraiment les années punk en France. Je pense que Roger, ouais, effectivement, ça vous parlera à balle cette histoire. C'est ce qui peut plaire aussi finalement si les gens ne connaissent peut-être pas, mais ils vont quand même découvrir ce qui a été quand même un épisode quoi, d'une génération.
Ouais, j'ai une question. Un vrai décor.
Ouais.
J'ai une question. Dans son braquage, est-ce qu'il y avait d'autres gens du groupe ou il était le seul du groupe à avoir braqué ?
Alors apparemment il était le seul, mais comme c'était le frontman. Du coup, caméra silence. Mais c'est surtout lui, hein, les autres. D'ailleurs, c'est un groupe qui a pas été très très stable non plus. Il y a eu des changements, etc. Et certains ont mal fini, certains ont bien fini, certains ont fini dans la dope, et puis d'autres ont à un moment senti qu'il fallait s'échapper, quoi. Gilbertin, c'est celui qui se retrouvera dans le coup. Et d'où cette image un peu, effectivement, héros du peuple maintenant. Parce qu'on voit en lui une espèce de aussi de comme c'est la Brinks qui est braquée, de je vais pas dire un bandit honnête, mais
ouais, déjà ça se fait sans violence.
Ouais, c'est ça, voilà, ouais.
Voilà. Et il arrive à partir avec la caisse quand même.
Oui, parce qu'il pourra lui ce qui l'aidera pour sa cavale. C'est plutôt bien fait. J'aime beaucoup le dessin aussi. Je dois avouer que curieusement le graphisme là de Stéphane Wari, je crois qu'on dit comme ça, qui est tout seul hein, aux manettes. Des fois, je trouve qu'il va chercher du côté de Burns ou Hernandez, plutôt
La page que vous tenez, on dirait du Burns de loin en tout cas.
Ouais, dans l'alternative plutôt américain. Et ouais. Je trouve ça intéressant. Il y a de la trame dans ces dessins, en fait. Mmh. Tous ces ombrages sont faits à la trame. Tu vois les petits points. C'est curieux. Là, il y a une scène de boîte de nuit en Espagne où ils dansent sur du Sister of Mercy. Ils sont chargés jusqu'aux yeux.
Ils sont chargés, ouais.
Et là, je trouve que, par exemple, comment elle est mise en page, elle est mise en scène, crac, découpée, et puis les couleurs, je trouve qu'elle est excellente, quoi.
Ouais, puis on
graphiquement,
il y a le mouvement, en fait.
Il y a le mouvement, ouais. Et c'est violet, bleu, bleu bizarre, manque de la nuit, là. Et puis les petits détails, tu sais, la espèce de meuf avec sa casquette SS, là, dans le coin. Vraiment tout un truc d'une écope. C'est très chouette et je trouve ça très honnête dans l'approche parce qu'il est pas irréprochable hein, finalement comme gars non plus quoi.
Ils le mettent pas tout blanc non.
Non tu vois c'est un gars qui a jamais voulu rentrer dans le rang, c'est ce qui fait ça. C'est quand même un monde assez masculin quand même aussi dans lequel il évolue. C'est intéressant le personnage de sa compagne justement. Ça chouette. Non vraiment un très bel album. Les héros du pop sont immortels. La cavale de Gilbertin, ça vous permettra de découvrir. Je trouve que la couve elle est bien en plus. J'aime bien le gars qui se regarde
c'est
dans
marrant
la...
marrant parce que de loin, moi, je croyais que c'était vous rappelez, je crois que c'était chez Albin Michel, des albums de...
Tout souple, tout fin, là, il y avait les cloches et tout ça.
Non, jaune comme ça, pas Denis Cire, Martin Véron. Des couvertures de certains Martin Véron de loin. Je croyais que c'était un Martin Véron. Bah,
le jaune fait 13 années 80. C'est vrai qu'on n'utilise plus jamais ça maintenant.
Non. Oh, mais faut pas dégoûter les gens.
Mais c'est pas ça.
C'est pour ça que ça fait pas le Martin Véron de cette époque-là qui était comme ça. Jaune, noir, comme ça. Ça se faisait beaucoup. Bah,
moi, ça m'a fait penser au polar. Voilà. Aux séries noires, par exemple. avec le liseré.
Canardo. Je crois qu'il y a des couvertures Canardo, de Canardo qui étaient comme ça.
Exact. Ouais, les premiers. Exactement. En tout cas, Stéphane Wary, je crois que c'est lui, vraiment raconte ça très bien. Et puis vraiment, son dessin est très réussi. Je le trouve vraiment très très chouette.
Il paraît qu'il a fallu qu'ils aillent en Afghanistan pour retrouver ça, un pot jaune comme ça pour imprimer.
Alors ce qui est curieux, c'est je voyais pas ce qu'avait fait ce monsieur. C'est lui qui avait fait, je sais pas si vous vous souvenez de ça, Roger, J'élève mon robot de compagnie. Vous vous souvenez de cette vieille BD?
Oui, c'est vieux ça.
Et ben c'était lui qui dessinait.
Ah, c'est rigolo.
C'est marrant, ça a rien à voir.
Ah non, rien à voir.
Ouais, il est surprenant.
Mais c'était années 80, c'était dans un espèce de registre.
Par contre, j'ai retrouvé ce truc un peu 80. Oui, avec des côtés ligne claire aussi. Mais c'est un album intéressant, même si bon, sans doute beaucoup plus parlant pour ceux qui seront, on va dire, d'une certaine génération, voire d'une génération certaine. Mais n'empêche que c'est un
bouquin genre 50 et plus, quoi.
Ouais, quand même. Mais sympa. Moi, je vous le conseille. Si vous avez un ami dans cette tranche d'âge, voilà, qui part à la retraite, un truc dans le genre.
Qui n'est pas mort, lui.
Ouais, ou tout simplement quelqu'un qui a envie d'une bonne histoire, un peu polar, avec, effectivement, cette plongée dans les années 80 qui sont vraiment bien représentées. Moi, j'avais l'impression de m'y retrouver.
Et une histoire vraie qu'ils aient.
Voilà. C'était pour moi.
Les héros du peuple sont immortels chez Dargo, Stéphane Wary. Et c'est maintenant à Monsieur Fifre, là.
Eh ben, on va rester dans le punk ou la punk attitude avec Ancoli, qui est une BD de Salomé Laoche, qui est autrice complète là-dessus, scénario et dessin, aux éditions Glénat. Ancoli, c'est une sorcière qui donne l'impression, on dirait qu'elle a 27 ans, mais en réalité, elle en a 359, j'ai compté, parce qu'elle vieillit 13 fois moins vite que les êtres humains normaux. Et donc c'est une sorcière qui vit dans son monde de sorcières, sauf que le monde de sorcières qui cohabite avec le monde des humains.
À la Harry Potter.
Un peu à la Harry Potter, ouais. Il y a des passerelles. Mmh. Et sauf que elle a des pouvoirs. Des pouvoirs hérités de la grenouille, des pouvoirs de l'étang, mais donc elle a des pouvoirs.
De la grenouille, ton animal totem, c'est la grenouille.
Ça va lui servir bien à un moment. Elle a d'ailleurs une grenouille de compagnie, enfin un crapaud de compagnie. Mais alors du coup, elle, le fait d'être sorcière, elle en a un peu rien à fiche. Ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir se servir de ses pouvoirs pour se prendre des grosses mines, prendre de la drogue, coucher avec tout ce qui bouge.
Donc c'est pas vraiment pour les petits.
Non, pas vraiment. Non, c'est pas.
On est loin de Brume.
C'est pas de la vie pour enfants. On est loin de Brume. Ouais, elle est. Sauf que à force de servir de ses pouvoirs pour tout et n'importe quoi, essentiellement pour assouvir ses pulsions, les plus basses, hein, si on doit
comparer. Les bas instincts, on appelle ça les bas instincts, les péchés capitaux.
Je cherche l'expression. Ça finit par attirer l'attention parce que bon, donc du coup, elle se prend des cuites, elle séduit, enfin elle est en rupture avec un vampire, mais visiblement c'est une histoire qui vient.
c'est une métaphore.
Sans jeu de mots. Et elle fait, en gros, elle fait n'importe quoi. Elle commet des excès tout le temps, elle conduit son balai en étant bourrée comme une
comme une Roger.
Bourrée comme un coin, enfin elle fait vraiment n'importe quoi. Et donc au bout d'un moment, il y a un conseil des sorcières qui se réunit tous les ans. Et le conseil des sorcières, c'est un peu les Oscars et les réprimandes en même temps. C'est-à-dire qu'il y a les sorcières qui sont saluées pour
leur action. C'est le conseil de classe.
Ouais, c'est le conseil de classe. En fait, on se rend compte qu'elles ont quand même une volonté de privilégier les gens qui font quelque chose sur le plan de l'écologie. Elles sont un peu les gardiennes de la nature. Alors, pas comme ces cons d'elfes qu'on voit à un moment, parce que les elfes, bon, visiblement, en colis, les détestent. Elles seront à un moment à un festival d'elfes. Elles disent, ouais, non, ça va être des connards en Sarwell, ce genre de truc. En plus, il n'y a pas le droit de boire de l'alcool à leur soirée. C'est vraiment nul. Bon, elle se fait virer parce qu'elle a insulté un elfe pendant qu'il jouait du flutio sur scène en disant que c'était de la dope. Elle est très, très drôle. C'est le personnage qui m'a beaucoup attiré.
Ça me donne envie,
attiré.
Moi, comment cette.
Ouais, parce qu'elle a vraiment un comportement détestable, un peu comme l'épouvantail dans la première BD, mais en pire, parce qu'elle, elle a un vrai pouvoir de nuisance. Où qu'elle aille, quand elle part, ça finit par déchirer.
Et là, on est dans un registre plus fun, par contre.
Ouais, c'est plus fun. Mais sauf que, au moment où elle passe devant le conseil des sorcières, là, ça rigole plus, parce que les sorcières disent non, mais votre comportement, c'est la troisième fois qu'on vous met un blâme, c'est plus possible, quoi. Donc là, c'est la dernière année, on vous laisse le choix, encore un an. Si vous faites rien de bien pendant cette année-là, on vous retire vos pouvoirs. Et là, elle a dit, non, mais attendez, moi, avec l'âge que j'ai, vous me retirez mes pouvoirs, je vais crever. Il dit, oui, on n'a pas le droit de vous condamner à mort, mais on sait que si on vous retire mes pouvoirs, par contre, effectivement, vous allez mourir dans l'instant.
Vicieux.
Donc, là, elle se dit, ouais, là, il faut quand même que je redresse la barre, parce que sinon, ça va être pénible. Donc, elle passe les 11 premiers mois à faire, ou à peu près, à faire exactement comme avant, en se disant, bah, de toute façon, c'est trop tard, c'est foutu, etc. Et puis au bout d'un moment, elle se réveille quand même parce que elle se dit bon, c'est si je veux pas terminer ma vie, c'est quand même maintenant qu'il faut que je me secoue. Elle va demander l'aide à une de ses dernières copines qui lui reste. Elle avait deux copines avant, il y en a une avec qui elle s'est brouillée quand celle-ci s'est rendue compte qu'elle avait par jalousie, elle avait empoisonné quelqu'un, enfin une humaine. Celle-ci, donc qui s'appelle Claude, c'était Macha et Claude. Claude s'était brouillé avec elle, elle va la retrouver parce que Claude, par contre, c'est une méga tronche et elle fait vraiment des trucs pour l'écologie. Et elle va la voir et elle dit bon, écoute, c'est un peu ma dernière chance là. Il faut que je réussisse à faire quelque chose de bien. Et donc, elle se trouve une mission qui pourrait la faire se refaire une virginité auprès du Conseil des sorcières. Mmh. Et donc, elle va s'employer à essayer de rattraper ses écarts passés.
La rédemption.
Ouais, c'est une forme de rédemption. C'est le seul.
C'est
le
votre
seul
côté judéo-chrétien.
Voilà, c'est ça. Moi, j'ai besoin que les gens aillent vers
la lumière.
Leur côté perfectible et aillent vers la lumière. Mais, et le seul reproche que j'aurais à faire à cette BD, parce que moi,
c'est trop court.
C'est que la fin est un poil trop court. L'histoire, elle est super bien. Ça, il y a beaucoup d'humour. Ouais. Il y a plein de trucs. Mais par contre, on sent que l'autrice, à un moment, elle plie les gaules quand même sur 4 pages. Elle termine l'histoire. Et je trouve que c'est un peu trop ramassé. Moi, je trouve que ça aurait été bien de faire quelque chose qui soit un petit peu plus long sur la toute fin. C'est vraiment le seul reproche que j'aurais à lui faire. Sinon, je me suis beaucoup amusé tout du long.
Et graphiquement, ça ressemble à quoi?
Graphiquement, c'est du Salomé Loche. Elle avait fait Flemme de vivre, mais peur de mourir.
Elle avait fait une BD aussi, Salomé Loche, sur une affreuse gamine.
Ernestine, qui était Ernestine. Très bien. Avec
c'est
un personnage.
Ça.
En fait, elle aime bien les personnages détestables. Et en fait, je pense qu'elle prend vachement sur
mais tu
exemple
sais,
sur elle. Parce
que Ernestine, je l'avais chroniqué parce que Madame Matadora me l'avait vendue.
Elle l'avait adoré. On avait tous adoré elle. La librairie. C'était vachement bien.
Graphiquement, moi, quand je regarde ça, je trouve qu'il y a un côté Yellow Submarine Beatles.
Ouais.
À fond.
Oui, puisque c'est très très coloré. Hein. C'est très coloré, très c'est des aplats de couleurs. C'est pas une grande dessinatrice, mais par contre, elle fait passer tout ce qu'elle a besoin de
texte,
faire passer.
Il y a du texte.
Et alors, il y a quelques placards de texte, mais honnêtement, c'est bien parce qu'en fait, elle explique un petit peu comment fonctionne le monde des sorcières, qui est en. Parce qu'il y a des passerelles avec les nains, alors elle aime bien aller chez les nains parce qu'avec les nains ils picolent, donc ça c'est rigolo. Que les elfes, bon, on l'a compris, c'est vraiment des
c'est
gens qui aiment
les cons. Les elfes sont des têtes de
cons. Les elfes, c'est des connards. C'est vraiment des connards. Ah. Et elle est bien friée avec les vampires parce qu'ils font des gros stuff et ça c'est bien. Elle a vraiment un côté attachant et rigolo. Bon, on n'aimerait pas forcément l'avoir comme voisine, mais c'est très chouette. Et effectivement, elle a toujours Salomé Loche a toujours ce don pour créer des personnages qui sont foncièrement antipathiques, mais avec lesquels on aime bien rire.
Ouais, la couve est belle en plus. Elle est assez réussie.
Ouais, non, ça fonctionne très bien. Puis on sent qu'elle a quand même. Elle a dû potasser son Harry Potter et le remettre à sa sauce. Mmh, et du coup, ça fonctionne très très bien. Donc moi, j'ai beaucoup aimé.
Ouais. Alors ça s'appelle.
Ça s'appelle « Je prends du LSD et je fais des bandes dessinées de toutes les couleurs
». Ça s'appelle « En colis », c'est chez Glénat de Salomé Laoche.
C'est vrai que bon, fait un peu...
Ouais,
ça fait
un retour, j'ai un retour de trip moi, en regardant les dernières planches. Waouh, 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 je crois que je vais aller écouter un bon vieux Pink Floyd. Mais en tout cas, j'avais adoré Ernestine.
Ah, Ernestine, c'était super bien.
Et là, je suis très déçu. Là. D'habitude, on essaye de les vendre, ce genre de BD. Là, pas cette fois-ci.
Mais elle vient de sortir. Vous n'étiez pas passé, vous étiez en vacances.
Ah, dans le Berry mystérieux.
Ah oui, le Berry. C'est loin, le Berry. Il faut revenir aussi du Berry.
On n'en revient pas facilement.
On n'est jamais totalement indemne du Berry.
Et là, elle est passée carrément chez Glénat, du coup.
Bah, elle était. Maintenant, c'est sûr qu'avec les... Elle a quand même fait
des super exemplaires. Elle avait eu un prix avec Ernestine.
Je crois qu'elle a eu un prix, ouais. Je sais pas trop, mais en tout cas, Ernestine a cartonné. Il est en rupture assez régulièrement.
Ouais. Interlude musical.
Allez.
Allez pour la gloire. Yeah. petit côté hooligan, tout ça. Mais ouais. J'aime bien, c'est prenant. Quel cœur.
La sueur d'homme, ça sent la testostérone.
Clairement.
C'est bien d'avoir un titre de Gilbertin après une BD sur Gilbertin.
Mais oui, j'espère que tout le monde aura compris le truc. Allez, regarde-le, il s'agite avec son petit bouquin là.
Ouais, parfaitement.
Vous frétillez comme un ratiche poche.
Je vous ai déjà gâté avec Ratiche Poche, troisième tome, qui est paru il y a peu de temps. Et voilà que, alors que j'étais très surpris pendant mon voyage dans le Berry Mustérieux, qu'est-ce que j'apprends? Sort dans la collection Popoche, Fantomix. Fantomix, c'est un peu le pendant de Ratiche, vous voyez, c'est un collectif, on peut retrouver quand même des gens comme Monsieur Beignet, Bob Besseron, Guillaume Gers, Arnaud West et Julien Solé, excusez-moi du peu, quand même, donc du beau linge, et on retrouve le même état d'esprit qu'on a avec Ratiche Poche, c'est-à-dire la capsule temporelle, en fait. À chaque fois, moi, ça me fait le même effet. Je pars, quand je lis Fantomix ou quand je lis Ratiche Poche, je suis dans un champ en train de pique-niquer avec mes parents, vous savez, avec la vieille BD que j'emmenais, dans ces rares moments où c'était un peu peinard.
Un Placide Museau.
Ouais, genre, c'est le format poche.
Piffy Hercule, petit carré, là.
Ouais.
Avec en plus des fiches, on retrouve, puisque... Alors, Fantomix, alors autant Ratiche Poche, on est dans l'univers des rats, etc., avec, etc., sans de jeu de mots.
Vous voulez faire de la musique, ou de la radio.
Et là, c'est comment on a un souci, on fait la découverte d'une louve-garou. C'est quoi une louve-garou? C'est l'inverse d'un homme. Elle, ce n'est pas la créature en question, ce n'est donc pas un homme mordu par un loup infecté qui devient un loup-garou. Non, c'est un loup mordu par un homme infecté qui devient un homme-garou. Il a envie de redevenir un loup qu'il était, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est emmerdé. Et cette jeune femme, parce qu'il s'agit d'une jeune femme, eh bien, elle rencontre un chien, un petit chien. Alors c'est vrai que ça me fait penser à mon vieux Floppy, vous voyez, elle trouve son Floppy en la personne d'un chien fantôme. Et tout chien fantôme qu'il est, il faut qu'il fasse pipi aussi. Et qui n'a pas de chien ne peut pas comprendre les aventures de Fantomix. Et justement, ce petit chien là va permettre à notre héroïne de rencontrer un sorcier qui va lui expliquer comment elle peut essayer de redevenir un être normal, en l'occurrence pour elle une louve. Et il va falloir qu'elle accomplisse un certain nombre de bonnes actions. Et toutes ces bonnes actions, au cours de toutes ces bonnes actions, elle va rencontrer une bérane, c'est une vieille dame cannibale pourrie vivant au fond des puits, dans les fontaines, etc., qui se nourrit exclusivement de petits enfants.
Et ça, c'est drôle.
oui. Elle rencontre également le golem, créature élémentaire, humanoïde, fait d'argile, à qui on a insufflé la vie afin qu'il protège son créateur, avec une petite fiche très ludique. Et à la fin, comme à chaque fois, aux éditions Popoche, on a une petite place pour avoir de la dédicace. C'est-à-dire que moi qui suis fan, quand je les verrai enfin en salon, eh ben je me ferai dédicacer. Et c'est marqué, toi aussi deviens un vrai chasseur de dédicaces. Va dans le cimetière de ton village et déterre les dessinateurs, dessinatrices mortes pour leur demander un super dessin. Vous voyez, lui aussi, il fait dans... Eux aussi
qui,
font dans...
Qui c'est le dessinateur?
Il n'écoute même pas. Je dis que c'est un collectif. On trouve Monsieur Beignet, Bob Besseron, Guillaume Gers, Arnaud West et Julien Solé.
D'accord.
Voilà.
Ouais, ils sont pas en prison tous ces gens-là.
Non, ils sont pas en prison.
Pourtant, vu la liste.
Et c'est bien. On croise. Il y a le Dahu également. On croise un Dahu. On croise effectivement énormément de créatures pittoresques. Alors on m'a dit, Madame Matadora m'a juré promis qu'elle l'avait lu et qu'elle avait ri. Je la crois pas.
C'est faux.
Oui, mais oui. À chaque fois, elle me fait croire. Elle papillonne des yeux. Puis là, je suis là, crac-crac. Ça y est, je crois ce qu'elle dit. Mais c'est pas vrai.
Il pense être trois. Il pensait être trois à être converti.
Alors en attendant, vous avez une bonne nouvelle à nous communiquer. Il se trouve que vous avez rencontré le deuxième acheteur Ratiche Poche.
De Ratiche Poche, et il m'a dit que c'était qu'il écoutait l'émission Plume et Pinceau. Et de là à dire que c'est grâce à Plume et Pinceau qu'il a acheté Ratiche Poche, il n'y a qu'un pas qu'on peut ou pas franchir.
Qu'on va franchir, ça nous coûte pas cher.
Ça nous coûte pas cher. Et du coup, je pense que la prochaine fois, j'essaierai de lui soutirer des informations supplémentaires.
En attendant, merci.
Merci Plume et Pinceau.
Merci Plume et Pinceau.
Grâce à vous, le chiffre de la librairie dont nous tairons le nom a explosé.
Et ouais. Alors, et Fantomix, alors que j'ai vu que Fantomix s'était mis en exergue derrière la vitrine. C'est bien.
Oui, non, on est obligé, vous passez tout.
Il y a du progrès.
Vous passez si souvent.
Je passe vérifier.
Ouais.
Si Totoche Poche et Ratiche
Poche. Il a même pris un chien pour ça. Pour avoir un prétexte.
Sinon, il nous lâcherait Floppy.
Il saute à la gorge. C'est une petite bête, mais il vous saute à la gorge, il vous égorge. Bon, d'ailleurs, on pourra peut-être, si c'est un bon morceau, après dédicacer à ce morceau-là à notre super auditeur ou auditrice.
Tout à fait, ok. On fera ça. C'est un album que j'ai acheté à la librairie dont on taira le nom. Bah, après, je suis venu exprès le chercher. C'est Slum Kid, le deuxième épisode. Slum Kid de Petit Rapace. Petit Rapace, c'est, on va dire, un des petits jeunes du label 619, quoi.
Tout à fait.
Deuxième génération, on va dire, après les Singelins et tout ça, les Meyef, les Run. Voilà, c'est les petits nouveaux parce qu'ils vont chercher quand même. Hein.
Oui.
C'est un vrai projet. C'est un vrai label, en fait, qui a un vrai projet. Les pères fondateurs lui ont donné une coloration bien particulière. Qu'on retrouve dans Slum Kids, hein, dans l'univers qu'on va découvrir. Voilà, cette inspiration pour les films de série Z, les mangas, les trucs de science-fiction. On retrouve tout ça dans Slum Kids. Alors, Slum Kids, c'est quoi? On avait déjà eu un premier épisode, on avait d'ailleurs rencontré Petit Rapace.
À Plume et Pinceau.
Ouais, à Plume et Pinceau.
À Quai des Bulles,
exactement. Disons qu'il y a la cité. Autour, il y a, on va dire, des favelas. Et après, il y a vraiment le slum, quoi. Et le slum, c'est la décharge ultime. Et il y a des gens qui vivent là, au milieu des déchets, qui vivent en fait des déchets produits par le centre. On est dans une dystopie, on pourrait dire. Alors, on ne sait pas très bien comment tout ça s'est mis en place, mais voilà, on est dans cette zone ultime de décharge. Et dedans, bah, vivent des gens, et notamment des bandes d'enfants, etc. Pas mal de délinquance, il y a de la dope et tout ça. Les chaussures, faut que tu les trouves parce que dans ce qui a été rejeté depuis le centre, la nourriture, pareil, c'est un peu de la récup. Bon, il y a des rats aussi, il y a des choses comme ça.
C'est la loi du plus fort.
Ouais, c'est une espèce de méga favelas pourri, ultra pourri, encore plus pourri que ça peut être. Et tu retrouves des trucs à la cité de Dieu, quoi. Bon, c'est-à-dire t'as des gangsters, t'as des gens qui essayent de survivre, et t'as des enfants. Les personnages principaux sont souvent des enfants. Là, l'histoire commence, tu as, arrivant du centre de la cité, quoi, des camions bennes qui arrivent dans le slum, et ça déclenche un mouvement de foule qu'on pourrait comparer à l'arrivée de vivres en plein milieu de Gaza, tu vois, là, un convoi humanitaire qui aurait par chance réussi à passer. Voilà, il y a comme un mouvement de foule, les gens se précipitent. Et puis dans ce monde de la slum, on se bat, quoi. Tu vois, il y a ton bout de pain, faut aller le chercher, etc. Donc c'est une jolie empoignade autour des restes de amenés, déchargés par ces camions-bennes, protégés par une espèce de milice Wagner, parce que quand même, c'est assez incontrôlable, quoi. Nos crevards vont trouver déchargés. On ne sait pas trop comment, au milieu de tous les restes, une petite fille qui vient apparemment du centre de la cité.
Parce que dans le premier tome, ils avaient perdu un des leurs.
Alors, vous anticipez ce que je vais dire par là. C'est une histoire qui n'a rien à voir avec le premier. En fait, tu vas retrouver des personnages. Tu vas retrouver des personnages, mais il nous l'avait expliqué, Petit Rapace, son but, c'est pas de faire une série avec des personnages récurrents, c'est faire des personnages qui se croisent.
Ah,
et essayer de créer justement une espèce de vision globale de cette zone que j'appelle le slum, quoi.
Donc c'est le slum le personnage principal.
Exactement, c'est le slum le personnage principal. Parce que la petite fille, donc, arrivée du centre, comme j'essayais de le dire, attire toutes les convoitises, quoi. Et elle va être sauvée par un petit gamin, mais ça va s'enchaîner, va déboucher sur une course-poursuite, quoi. Puisque deux bandes d'affreux lancent un contrat pour récupérer cette petite fille. Ils espèrent faire chanter le centre, obtenir ou une rançon ou des avantages quelconques, quoi. Ils espèrent se sortir de la merde comme ça. Faut être franc. Et donc c'est une course-poursuite. Alors l'étrangeté du sauveur, c'est qu'il a une espèce de flûte, façon Hamelin en fait, et il commande aux rats. T'as plein de petits rats qui sont dessinés assez rigolos d'ailleurs, je trouve, dans cette BD, qui vont être un peu l'atout pour nos deux personnages en fuite, qui vont essayer déjà de s'entendre parce qu'elle est chiante. Hein. Elle est chiante, c'est une princesse, quoi.
Princesse. Elle vient d'un autre monde.
Voilà, elle voit pas tous les efforts. Au début, franchement, t'as envie de la claquer, quoi. T'as envie de la claquer. Je trouve que le personnage du petit garçon, là, qui la sauve, il aurait mérité un peu plus d'approfondissement, parce qu'il est vraiment très patient au début avec cette peste, et tu te demandes, mais pourquoi tu te fais chier, mec? T'as envie de le dire ça. Il aurait fallu expliquer un peu plus son background, peut-être.
Il voit peut-être l'intérêt aussi, il peut gagner des sous.
Non, vraiment, ça a l'air d'être un naïf. Ça a vraiment l'air d'être un naïf, qui s'est lancé dans une opération de sauvetage. Ouais, un idéaliste. Et donc, ils vont fuir à travers, donc, ils vont se déplacer dans le slum, donc découvrir différents endroits, et puis rencontrer, par exemple, et ben, effectivement, les personnages du premier épisode qu'on avait vu, une bande de gamins des rues qui s'appelle les microbes, qui vont à un moment, ils vont se croiser, et ils vont partager un épisode, on va dire, dans cette odyssée. J'aime bien cet univers. C'est assez violent, c'est vraiment inspiré du manga. Il y a des petites touches aussi un peu de magie et de fantaisie. Par exemple là, le Futio qui commande aux rats et qui viennent attaquer les méchants. C'est, tu vois, il y a un côté magique, quoi. On dirait un conte. C'est des contes macabres de la favelas. On pourrait comparer ça comme ça.
Et c'est chez qui du coup alors?
Ah bah il écoute pas.
Si, mais je me rappelle plus.
La Belle 619, bien sûr.
Voilà.
Et donc graphiquement, pareil, c'est assez cartoonesque. Il y a aussi du manga. Je suis assez fan. En plus, il a encore un peu amélioré, je trouve, son dessin.
Son dessin, déjà, il dessine des doigts.
Ouais.
Parce que
mais ça donnait un côté cartoon que j'aimais bien.
Ouais, mais au bout d'un moment, c'était je trouvais que c'était.
T'as les grands yeux kawaii aussi. Et les scènes d'action sont plutôt pas mal faites, ça explose bien.
C'est hyper dynamique, ouais.
Ouais, c'est un jeune pouce vraiment du label 619, il a quelque part. Alors t'as plein de goodies aussi, de goodies. T'as un poster, t'as des petits dessins.
Est-ce qu'ils ont pris le soin de tout bien attacher dans le livre?
Ouais.
Oui, mais si vous décrochez le poster, faut en acheter deux.
Ouais, parce que il y a des maisons, comment dirais-je, parfois.
Un petit portfolio à la fin. J'aime beaucoup le dessin là de comment il s'appelle? Kogumeli, on dirait du Akira. Tu trouves pas? Là, avec la poupée, la jeune fille, tu sais, qui essaye de, qui est en chaise roulante, là, et puis les personnages qui dansent. Vraiment, la scène de Akira, quand il trouve les gamins numérotés. Ouais. Tchom, tu sais, où t'as les petites poupées qui attaquent. Ouais. Slum Kids, deuxième épisode. Petit rapace, label 619. Moi, je le trouve plutôt réussi. Le premier était vraiment plus spectaculaire. Pour le moment, le premier tenait, parce qu'il y avait un cliffhanger au milieu, vraiment une scène terrifiante. C'est dark, là encore, mais il a pas réussi, il n'y a pas un moment cette scène qui te prend les tripes, comme il y en avait eu au milieu et qui fait mal, ouais. Même si c'est très dur, on retrouve tous les ingrédients. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que tu vois plein de gens du slum, quoi, de cette favela. Et ce qui est marrant, c'est d'essayer de reconnaître les personnages de jeux vidéo ou d'animés, tu sais, qui sont, pas caricaturés, mais, intertextualisés, comme on dit, tu vois. Il y a des allusions à Street Fighter, etc. C'est assez drôle.
En fait, dans le label 619, ils ont un mélange de toutes ces
c'est une grande masse de pop
culture, ouais. Mm-hmm. Ils arrivent vraiment bien à la restituer
c'est cool.
À leur façon.
Mm-mm. On dédicace un petit morceau de musique. Alors, on avait dit à qui?
Au grand fan de Ratichepoche que je tiens à remercier.
Alors, on va l'intégrer au Victorian English Gentleman Club et on va lui donner un conseil d'arrêter le gin. On a commencé avec une contrebasse, on finit avec une contrebasse. Plume et pinceau, une émission cohérente.
C'est de la belle ouvrage.
Alors, on pourrait tous en parler de ce dessinateur, auteur, scénariste, homme complet.
Mais
et drôle.
J'étais assez surpris que Roger ne le.
Mais oui, tout le monde a pensé.
C'est oui, le truc. Mais c'est parce que comment je les ai lus, prélus dans Flux Glacial, auquel je suis abonné, effectivement. Mmh. Dans ces cas-là, je rachète pas encore en plus l'album parce que je ne sais pas où je vais dormir. Donc, il faut quand même que j'ai de la place pour évoluer dans ma maison.
Et moi,
donc,
j'étais persuadé que vous en parleriez. J'étais persuadé que vous en parleriez.
Alors, ouais, je parle parfois. Alors, c'est vrai que ça faisait longtemps que Bouzard nous avait pas régalé. Il y a eu 14-18, je ne sais plus comment il s'appelait, les Poilus.
Ouais, je crois que c'était les
c'est
Poilus.
C'est peut-être le dernier, ouais.
Ouais, et c'était pas forcément sa meilleure réussite.
Non.
C'était pas forcément le plus désopilant. Et par contre, je trouve qu'effectivement, avec les vacances chez Pépé Mémé, on a retrouvé une bonne verve. En fait, il raconte, j'ai l'impression que c'est par chez lui, là, dans les Deux-Sèvres, ouais, dans les Deux-Sèvres profondes, où un Pépé et une Mémé reçoivent leurs trois petits-enfants, c'est ça?
C'est ça. Et ils les reçoivent en vacances. Et il y en a un particulièrement qui se distingue, c'est Ethan, qui fait à peu près tout ce qu'il faut pas faire. Pas forcément un mauvais escient, mais il fait vraiment que des conneries. Et ça lui retombe systématiquement sur la gueule. Bon, après, il faut reconnaître que Pépé et Mémé, ils ont un peu une éducation à l'ancienne aussi.
Ah, c'est vraiment...
voilà, c'est un peu rugueux, quoi. Et puis, il y a le polo, pas loin, qui est un vieil obsédé qui bug des insanités à longueur de temps. Et ce qui est assez drôle, c'est les réactions de la mémé qui a l'air d'être tout le temps blasée et le pépé qui essaye de systématiquement d'aller picoler avec son voisin ou son copain, on sait pas trop, peu importe. Et donc du coup, bah les gamins, ils sont un peu livrés à eux-mêmes et ça finit toujours mal, en particulier pour le pauvre Ethan.
Il y a un épisode qui est terrible, c'est avec le cochon. Ah, le vous cochon, savez quand le grand-père avait décidé d'élever son cochon naturellement, c'est-à-dire plutôt que de l'enfermer dans un vilain réduit, le cochon courait. Donc les gamins pendant plusieurs années ont joué sur le dos du cochon, ont joué avec le cochon, etc. C'était leur compagnon de jeu. Et il y a l'épisode où le cochon passe à la casserole et alors qu'on commence à l'égorger, il saigne, il commence à perdre son sang partout.
Il parvient à s'échapper.
Et la mémé qui dit à la voisine, parce que ce côté blasé, elle dit non, bah, il n'y aura pas besoin des bocaux hein, parce qu'on n'aura pas beaucoup de boudin. C'est pas aussi.
Et voilà les gamins qui sont traumatisés d'avoir vu le cochon cavaler avec du sang qui gicle par le cou. Là, c'est très très drôle.
Donc c'est découpé en épisodes.
Ouais. Voilà.
Parce que ça a été pré-publié dans Fluide. C'est ça.
Autre, voilà. Et c'est toute la magie des Deux-Sèvres hein, que je connais un peu, moi, les Deux-Sèvres. J'ai un ami qui y habite et effectivement, c'est folklorique, les Deux-Sèvres. C'est la campagne.
Bah, moi, ça me fait penser dans le ton à The Autobiography of Me Too.
Oui, c'est ça.
Aussi dans
c'est
les Deux-Sèvres.
Ah, c'est ça. Mais c'est son blé, hein. Il est originaire. Enfin, je sais pas s'il est originaire. En tout cas, il habite par là.
Tu penses à Autobiography of Me Too.
Ouais, on est vraiment dans ce genre d'ambiance.
Ouais, oui. Des scènes rurales.
Ouais.
Mais on l'avait rencontré une fois, Monsieur Bouzard, parce que vous riez des Deux-Sèvres. Mais enfin, quand il est venu chez nous, je vous rappelle, dédicacé, c'était un festival qu'il y avait avec une librairie qui était sur la tout en haut de la place Sainte-Anne.
La librairie Alphagraph.
Ouais, c'est ça. Il faisait un petit festival un peu alternatif. Bouzard avait été invité et on avait réussi à avoir une interview. Je sais pas si vous vous souvenez de ça.
Ouais, dans un bistrot qui s'appelle le
Petit Bar. Il pleuvait.
Il pleuvait et il y avait mon ami le plombier qui s'était endormi pendant l'interview qui coinçait M.
Sous
Bouzard. Et il coinçait M. Bouzard sur la table. C'est-à-dire qu'il avait un peu, mon ami avait un peu, plombier avait un peu abuso. Et il était quand même 14 heures, donc il
ah oui,
bien sûr, le temps de dormir. Et c'est bien parce que on voulait une ambiance bistrot pour Monsieur Bouzard, on l'a eu.
Merci
mon plombier, je remercie mon plombier.
Parce qu'il s'est pas endormi tout de suite. D'abord, il s'est assis et il a regardé qui c'était le type.
Ah ouais.
Tiens,
j'écoutais l'interview, c'était très drôle. Et à la fin, pouf, il est tombé parce qu'il avait bien un peu trop de rouge à midi.
Je pense que Bouzard avait déjà vu de la viande sous, là.
Oui, bien sûr.
Alors ça s'appelle Les Vacances.
Chez Pépé Mémé.
Chez Pépé Mémé. C'est paru chez Fluide, bien sûr.
Chez Fluide, naturellement.
Et graphiquement, c'est toujours du Bouzard, quoi.
C'est du Bouzard. C'est vraiment, moi, j'ai vraiment retrouvé l'ambiance The Autobiography of Me Too.
Ok.
Ouais.
Impeccable. Eh ben,
Étant, il s'est coupé avec l'acier électrique à Pépé.
Spoilez pas tout, Roger. C'est plus fort que vous.
Ah, ils ont des trognes, les grands-parents, faut voir quoi, l'aîné.
encore une fois, les vacanciers donc chez Pépé et Mémé, Bouzard, Flux Glacial. Et encore une fois, on passe notre amical salut à toi, lecteur de Ratiche Poche. Ouais. Salut à toi.
Et si j'ai droit à un morceau de musique, si on m'a mis un deuxième morceau de musique, peut-être, peut-être que je pourrais te dédicacer un morceau.
Qu'est-ce que tu veux dédicacer comme morceau?
Je sais pas, vous auriez dû au moins m'en mettre deux.
Ah, ok. Bon, alors un morceau à Roger, dédicacé à son nouveau copain. Oh là là!
À la librairie dont nous tairons le nom.
D'accord, eh ben, on va mettre un morceau. Allez, Divo. Ah oui, ça finit comme ça, Divo. Il y a une espèce de blanc comme ça. Et puis, voilà, un petit whip it. C'est voilà. Pour votre ami, donc c'est, vous lui dites...
Une très belle vidéo fessée. Que je vous incite à voir.
Oui, c'est vrai. Bah, de toute façon, la programmation, aussi bien livresque que musicale, est retrouvable sur le blog. Voilà. On peut réécouter le son, et puis on retrouve les couvertures. Ah, maintenant, c'est un peu chiant. Avant, il y avait un petit, t'avais un petit écran pour voir les clips. Là, je sais pas pourquoi on a fait une mise à jour. T'as juste des liens écrits. Faut cliquer dessus pour voir la vidéo. T'as pas le petit effet télévision.
Ouais, c'était peut-être plus cher.
Moins joli. Non, j'en sais rien. C'est une mise à jour à la con, ouais. Une mise à jour à la con.
C'est Windows 11.
Vous trouvez aussi le lien, si on veut nous envoyer des chroniques, parce que on accepte. Nous, on prend tout. Offre de briquet, proposition de chronique,
t-shirt, tout, t-shirt, ça peut arriver.
T-shirt,
ça peut arriver.
Je remercie d'ailleurs monsieur Fifrelin qui est arrivé avec deux t-shirts.
Ouais, mais ne le dites pas.
Ah ben moi ce qui me fait rire c'est qu'il a pris des XXXXL, enfin c'est du XL faux. Américain.
Naturellement, c'est faux.
Vous nous voyez comme des gros.
Il a vu que vous, non mais vous avez pris un petit peu.
Je constate.
Vous avez pris un petit peu quand même, on va pas se mentir.
Oh, le mec qui revient du Berry là. Lui s'est gavé de fromage de chèvre.
Du Berry, et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait du lemon, du spritz lemon. Très très bon dans le Berry.
Ça a changé le Berry.
Ouais, ouais, ils font du citron, ils font un excellent citron, il y avait des ruines romaines de toute beauté.
Un élan de la mort au diable.
Ah, c'est clair.
Ah, le Berry n'est plus ce qu'il était.
Tout le camp.
Et deux jours de train pour y aller dans le Berry maintenant.
C'est ça la mondialisation.
Il faut deux jours de train pour y aller. Ça nous rapproche. Ah ouais, deux jours pour aller dans le Berry profond.
Voilà qui vient clore cette 504e émission de Plume et Pinceau. On se retrouve encore normalement une fois la semaine prochaine avec un autre partenaire venu de la maison dont nous tairons le nom, un partenaire masculin, je crois, c'est ça?
Je pense que Carpetto sera disponible, ouais. Du moins on peut le forcer.
Hein. Ouais, on va essayer.
Ah,
ouais,
il retravaille un petit peu quand même.
Oui, il est revenu cette semaine, on sait pas trop pourquoi d'ailleurs.
Il s'est remis de sa coupure au doigt là, c'est avec le papier et tout,
voilà,
ça là.
Le pauvre
pépère. Oh là là là.
Il était à l'article de la mort.
Là, il est là parce qu'il y a des stagiaires.
Oui, je crois qu'il est là parce qu'il a faim surtout.
Eh ben, à la semaine prochaine alors, bonne lecture, tant qu'on a le droit.